Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radiographite, graphite.net, et animée par l'équipe des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com.
Qu'est-ce que ce sera merveilleux en Amérique quand on n'aura plus aucun souci à se faire à cause des chats. Il n'y a pas de chats en Amérique, mais par contre dans notre sainte Russie. Yeah! À pied dans la neige et nous marchions vers Minsk. Papa vit des traces de pas gigantesques. Quand j'entendis son cri, je tombais dans les pommes. Je me réveillais orphelin. Oui, oui.
Mais on a mêlé.
Au sommaire aujourd'hui, une émission entièrement consacrée aux dernières sorties Blu-ray et DVD de nos éditeurs préférés. On va pouvoir scinder cette émission d'ailleurs en deux parties, puisque on va d'abord parler de films d'animation avec Fievel et le Nouveau Monde, hein, un petit classique signé Don Bluth, sorti en 86, qui a été édité par Rimini Édition. Un autre, alors là, immense classique, L'année tchèque, de Jiří Trinka, film de 1947 sorti chez Artus Film. Également au programme, après on va passer aux vampires. Ah ouais, parce que moi je suis comme ça, je passe de l'animation aux vampires, bien qu'il peut y avoir des films d'animation avec des vampires. Ah oui. Mais là on va être dans les vampires pur jus, avec une forme moderne, une variation moderne autour du mythe du vampire. Un film de 1995 d'Abel Ferrara, édité par Carlotta Film, qui s'appelle The Addiction. Et puis, une version plus classique, bien qu'à l'époque, elle apparaissait comme moderne, c'est Le sang du vampire, un film so British de 1958, mis en scène par Henry Cass, sorti sur la forme d'un médiabook classieux chez Artus Film. Alors, l'équipe de Culture Prohibée remercie Mathilde Gibault, Kevin Boissezon, Thierry Lopez et Jean-Pierre Vasseur pour leur aide sur cette émission. Pour aborder ces merveilleuses galettes, je suis accompagné de mes merveilleux chroniqueurs habituels et habitués. Je veux bien sûr parler de Damien Demédi, la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Également présent dans ce studio, Thomas Rolandi, le loup-garou Picard, qui chaque nuit de pleine lune enregistre à l'écoute du cinéma diffusé sur RCA. Salut Thomas.
Salut GG, salut Damien, salut à toutes.
Cette émission est réalisée en partenariat avec Prime Cut, nouvelle revue de cinéma éditée par The Ecstasy of Film, qui s'est fixé pour objectif de défendre les cinéastes mal aimés. Afin de vous encourager à soutenir ce nouveau MOOC, nous vous invitons, lors de chaque épisode de Culture Prohibée, à rencontrer un des membres de son équipe. Cette semaine, c'est Michel Tabal qui s'y colle. Michel, pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs ?
Oui, bonjour, donc merci beaucoup. Donc je m'appelle Michel Tabal, très brièvement, donc je vais pas m'étaler sur mon parcours professionnel, mais donc en gros, je travaille donc dans le domaine de la promotion et de la protection donc des droits de l'homme, et je suis donc bien évidemment un grand passionné du cinéma, donc au sens sous toutes les formes, donc au sens très très large. Dans le cadre de mon travail, j'ai pu aborder la question tout ce qui a trait à la représentation du droit au sens large donc dans le cinéma, dans le le cadre justement des travaux de recherche, donc vous avez pu intervenir et publier des articles sur la question, comme la protection de l'environnement dans le cinéma, le terrorisme et la protection des droits de l'homme dans le cinéma d'action, la représentation des droits de l'homme dans le cinéma de genre. Donc j'ai rédigé plusieurs articles sur la question dans des revues de recherche, mais aussi dans des fanzines, et j'ai même créé un blog que vous pouvez consulter qui s'appelle Cinéma Bis, donc les droits, qui est un blog artisanal que j'essaie d'alimenter, mais qui n'est pas malheureusement souvent alimenté, mais que je vous invite à voir pour comprendre un peu ces thématiques qui me sont chères et qui sont abordées donc dans Prime Cut.
Et justement, est-ce que vous pouvez nous présenter votre travail dans Prime Cut ?
Dans le cadre donc du premier numéro, je vais rédiger plutôt un billet sur un cinéaste libanais et français, parce qu'il a fait des films surtout en France, qui est un des plus grands cinéastes libanais à mes yeux, mais qui est malheureusement méconnu du grand public à l'heure actuelle, alors qu'il a participé, il a gagné des prix au Festival de Cannes, c'est Maroun Baghdadi. Donc aussi une des thématiques qui m'intéresse beaucoup, c'est le cinéma libanais, la représentation de Beyrouth dans le cinéma. Et donc j'ai souhaité aborder ces thématiques-là, et j'ai choisi l'angle donc de Maroun Baghdadi qui mérite qu'on en parle de lui à l'heure actuelle, parce que c'est quelqu'un qui a un nom assez important dans le cinéma libanais, mais aussi dans le cinéma français, une personne qui est morte prématurément mais qui a pu faire des films magnifiques et qui, encore une fois, je n'arrête pas de le dire, qui est malheureusement méconnu même au Liban. Donc ce sera l'objet donc de mes travaux, sans parler d'autres petites chroniques que je vais rédiger sur un livre notamment sur les femmes cinéastes, donc de Véronique Lebris, et sur des DVD, donc on ne pourra pas s'étaler sur la question, mais voilà, donc d'autres films qui vont sortir en DVD, je pense notamment à Link de Richard Franklin.
Si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous rappelons que pour souscrire à cette revue, il vous suffit de vous rendre sur the-extasy-off-film.com ou de l'acheter chez votre libraire.
Lee Marvin, Gene Hackman, together their murder in Prime Cut.
On va démarrer sur les chapeaux de roue avec un film qui est un peu une Madeleine de Proust pour les vieux que l'on est, Thomas et moi, hein, puisque voilà, on est né sous Giscard, donc pour nous c'est mort, hein, voilà, on est né sous Giscard, donc forcément, Fievel et le Nouveau Monde, c'est un film qui a enchanté notre jeunesse, un film de 1986, du coup, j'ai envie de commencer par quelqu'un qui n'est absolument pas né sous Giscard. Donc je vais passer la parole à quelqu'un qui est né sous Chirac. Voilà, c'est... Eh oui, il y a des vieux, mais il y a des jeunes aussi dans l'équipe de Culture Prohibée. Je vais bien sûr parler de Damien Demet. Damien, donc toi, tu as vu ce film de Don Bluth, Fievel et le Nouveau Monde. Je ne sais pas si tu l'as découvert d'ailleurs à l'occasion de cette émission, mais qu'en as-tu pensé, mon cher Damien ?
Je l'ai découvert à l'occasion de cette émission. Donc pour résumer rapidement, Fievel raconte l'histoire d'une jeune souris... qui se nomme Fievel, et qui, avec sa sœur et ses parents, décide de quitter la Russie infestée de chats pour l'Amérique, une terre dite sans chats. C'est fait par Don Bluth, et à qui on doit Anastasia, qui durant très longtemps était connue pour être la seule princesse un peu Disney, sans être dans le catalogue Disney, mais qui l'a rejoint cette année. Et du coup, le truc qui est intéressant, c'est que Don a travaillé justement pour Disney, et il a fait ensuite... il est parti, il a fait cette animation, et du coup, on retrouve vraiment les mêmes sensations qu'un Disney de cette époque, en 2D et tout ça. Donc, pour certains, le Disney dans la grande époque, et ça fait vraiment étrange de redécouvrir ce film... aujourd'hui, le personnage de Fievel est assez, ironiquement drôle, je vais m'expliquer, parce que je le trouve très enquiquinant, toujours à poser des questions, constamment à faire des bêtises. Et en fait, c'est drôle parce que c'est littéralement ce que fait un enfant. Donc en soi, est-ce qu'on peut vraiment lui reprocher ? Le truc qui est intéressant, c'est qu'il a un peu la même naïveté que son père qui, au tout début du film, lui répète constamment « Tu vas voir, en Amérique, il n'y a pas de chat, l'Amérique, c'est bien, c'est génial. » Et dès qu'il arrive, il y a une confrontation à cette réalité qui n'est pas à hauteur de leur espérance. Il y a un personnage dont je ne sais pas si on va vraiment en parler ou pas, qui est le pigeon qui s'appelle Henri, qui est censé être un français. Et donc si j'ai vu le film en français, et du coup pour montrer qu'il est en français contrairement aux autres, ils lui font parler en franglais avec un accent dégueulasse, et pour bien renforcer le fait que c'est un français, il est niché donc sur la Statue de la Liberté qui à ce moment-là est en train de se construire. Le film se passe en 1885. Et pendant qu'il parle avec Fievel, il y a aussi des pigeons qui arrivent et qui évoquent directement le French Cancan. Mais voilà. Et du coup, c'est redécouvrir son travail. Je trouve ça merveilleux. Ça me replonge en enfance, pas la même que la vôtre. Mais du coup, j'ai hâte de voir le jeu vidéo auquel il a participé, qui est Dragon's Lair, et dont on annonce une adaptation.
Dragon's Lair, c'est le jeu vidéo auquel Don Bluth participe, parce que juste avant, il a fait un long métrage d'animation que moi j'aime encore plus, qui est Brisby et le secret de Nîmes. Parce que bon, moi, en fait, j'étais déjà un peu grand déjà quand ça s'est sorti, Fievel, mais mon petit frère étant beaucoup plus jeune, j'en ai profité pour le regarder avec lui, j'ai un peu triché. Mais Brisby et le secret de Nîmes m'avait beaucoup plu, et je me rappelle, c'était très noir, très sombre, et en fait le film n'a pas du tout marché. Du coup, avec ses compères, avec qui d'ailleurs il fait là le film, y a Gary Goldman entre autres, avec qui il a beaucoup travaillé, et il décide de faire ce jeu vidéo Dragon's Lair qui va un peu leur redonner un peu de sous, quoi, voilà, un peu d'argent. Et puis surtout Don Bluth à l'époque, alors Brisby et le secret de Nîmes quand même avait tapé dans l'œil de Spielberg. C'est pour ça que Spielberg, d'ailleurs, le fait venir pour produire, parce que c'est Spielberg qui produit ce Fievel et le Nouveau Monde. Et Fievel, c'est le nom, alors, je crois, du grand-père de Spielberg qui était venu aux États-Unis. C'est le nom en yiddish du grand-père de Spielberg, je crois, qui était venu aux États-Unis. Donc c'est un film qui a une grosse importance pour Spielberg. Hein. Et en fait, à l'époque, Disney va pas bien du tout. En 85, ils sortent un film que moi j'aime beaucoup pourtant, qui est Taram et le Chaudron Magique, sur lequel a travaillé d'ailleurs Tim Burton. Moi je l'aime bien, mais évidemment le film est sombre, il décontenance les gamins, enfin ça se passe pas bien, quoi. Le studio va mal et Don Bluth arrive et on dit c'est le nouveau Disney. En fait, ça va plutôt être un passage éclair, parce que après il va faire une suite à Fievel qui est bien mais pas extraordinaire, Fievel au Far West. Il va sa carrière va un peu péricliter. Il semblerait que là il a remonté un studio, il veut refaire des choses, Don Bluth, et du coup redécouvrir ce film qui gamin nous impressionnait est assez étonnant, d'abord parce que cette histoire de juifs qui émigrent vers les États-Unis et croyant découvrir un monde meilleur. Moi, ce que j'aime bien, c'est que alors c'est même étonnant que ça ait si bien marché que ça. C'est assez sombre en fait. C'est-à-dire que le gamin se retrouve, cette petite souris se retrouve quand même isolée. À un moment, il y a un plan, il recule, il fait un zoom arrière. C'est de la mise en scène, c'est vachement intéressant, c'est vachement mise en scène. C'est pas, il se contente pas de filmer des séquences animées. Il y a une vraie mise en scène. Il y a des scènes vraiment marquantes. Et franchement, à la revoyure, moi, je trouve que ça marche bien. Alors, évidemment, il y a les chansons. Alors, les chansons, bon, moi, ça me gonfle dans les Disney, donc ça me gonfle là aussi. Hein, ça, il faut dire les choses. Mais par contre, j'aime bien ce côté non manichéen et ce parti pris aussi de faire cohabiter humains et animaux. Et donc, en fait, là, c'est souris, tout ça et tout, elles vivent dans un monde. Il y a des chats aux États-Unis aussi, hein, voilà. Mais elles vivent dans un monde qui est une version miniature du monde des humains. Ça aussi, c'est vachement intéressant, je trouve, graphiquement.
Moi, je suis un peu comme toi, GG. Hein. Je ne sais pas qui a décrété, est-ce que c'est marqué sur l'étape de la loi ou pas, qui a décrété que les chansons, ça plaisait aux gosses. Voilà, qui a décrété ça? Bon, moi aussi, ça m'énerve. Mais bon, c'est un détail parce que le film est vraiment vachement bien. Je trouve que pour un dessin animé, pour les enfants, c'est vachement intelligent, ça les prend pas pour des crétins, notamment tout ce discours sur l'immigration, aux États-Unis il y a pas de chats, etc., etc. La traversée de l'Atlantique qu'on peut encore voir, qu'on peut remettre aujourd'hui en parallèle avec ce qui se passe entre le continent africain et le continent européen, la traversée de la Méditerranée, etc. Et tous les discours qu'on peut voir en Europe, il y a ceci, il y a cela, pas comme ici. Donc c'est un film très actuel qu'on peut montrer aux enfants, avec qui on peut en discuter après. Et surtout, comme tu dis, oui, il y a de la mise en scène. Et graphiquement, je trouve que le film est très beau, quoi. Il mélange plusieurs genres. Alors c'est un film d'aventure, hein, un drame, une comédie dramatique. Mais au niveau des décors, parfois on est vraiment dans le fantastique. On est dans le film noir, avec cette bande de chats là, qui jouent au poker ou je sais pas quoi, là, puis ce rat déguisé... Enfin, ce chat déguisé en rat qui exploite les souris. C'est un film qui je trouve vraiment très intelligent au niveau de l'écriture. Esthétiquement, c'est vraiment très beau avec toute cette imagerie, notamment cette histoire de chat géant là, qu'on retrouve à la fin. Bon, je ne vais pas dire comment, etc. Parce que c'est aussi un effet de surprise. Mais c'est vraiment, moi je trouve que c'est vraiment un très grand dessin animé en tout cas.
Thomas, on va rester avec toi. On va faire un petit bond en arrière. On va aller en 47 et on va aller chez un précurseur de l'animation, Jiří Trnka, puisque Artus nous sort là l'année tchèque, qui est pour le coup il y a de la chanson là, mais bon voilà, qui est une date dans l'histoire d'animation. Là aussi, c'est Jiří Trnka, c'est vraiment un maître quoi.
Alors je connais moins bien que toi visiblement Jiří Trnka, mais effectivement c'est quoi. Bon, c'est un long métrage qui réunit plusieurs courts métrages, d'après ce que j'ai compris, qui sont liés de façon plus ou moins artificielle. Il y a des histoires bibliques. Effectivement, on chante, on danse, mais c'est quand même un dessin animé. Enfin, c'est pas un dessin animé. C'est quand même un film d'animation qui encore une fois s'adresse aux enfants. Mais finalement, c'est un film d'animation qui est pas très drôle, quoi. La mort, elle est tout le temps là. Elle est dans toutes les séquences du film. Ouais, c'est un film qui... Enfin, je sais pas, je montre ça à des gosses. Parfois, c'est complètement nié. Il y a des anges et tout, etc. C'est très mièvre. Mais la mort, elle est tout le temps là. Elle rôde tout le temps dans le film. Il y a le démon. Non, c'est quelque chose d'assez étrange pour une production en direction des enfants. Alors, esthétiquement, par contre, c'est très impressionnant. Hein. C'est 47, t'as dit ?
Ouais, c'est 47.
Alors image par image, les petites marionnettes, là. Ouais, moi, ça m'impressionne beaucoup. Hein.
Ce sont des petits personnages en bois peints à la main. Voilà, enfin, je ne sais pas si on imagine le travail, quoi, qu'ils sont vêtus de tenues tchèques, quoi, vraiment classiques et tout. Donc, il y a un gros travail aussi de respect de la tradition tchèque. Et il y a des choses... Alors, c'est vrai, il y a des visions assez incroyables, hein. On a l'histoire de Saint Procope, hein, qui est vu par les paysans en train de labourer la terre avec le diable, des choses comme ça. Enfin, il y a aussi un squelette de chiffon à un moment qui, à mon avis, a largement inspiré Henri Selick, hein, qui a dû voir ce film. C'est obligé, de toute façon, c'est tellement évident quand on voit le film de Trnka. Moi, ce que j'aime beaucoup, surtout, on parlait de la mise en scène avant, là. Hein. Là, c'est pareil, quoi. C'est hyper impressionnant. Il y a des contre-plongées, des gros plans, des travelling. Il utilise bien les différentes valeurs de plan. Il a un découpage très travaillé, il a un montage très dynamique. C'est impressionnant, enfin. Mais c'est littéralement impressionnant. Enfin, on est sur du domaine. Alors, ils avaient déjà sorti les vieilles légendes tchèques. Mais là, on est sur du chef-d'œuvre, quoi. Enfin, bon, malheureusement pour les enfants, c'est sous-titré. Il n'y a pas de version française, donc c'est compliqué de faire voir ça à des tout petits. Pourtant, mais je pense que ça peut fonctionner. Pourquoi ? Parce qu'on est happé par l'image. Parce qu'en fin de compte, il n'y a pas vraiment de récit dans ce film. On est happé. C'est vraiment un film qui a la preuve que le cinéma, c'est le fond et la forme. Et là, c'est la forme qui happe le spectateur.
Oui, ce qui est sous-titré, c'est deux, trois chansons quoi, qui n'ont pas forcément d'importance sur l'intrigue, sur la compréhension du tout. Quoi. Au niveau de la mise en scène, c'est très dynamique, c'est jamais saccadé. Alors, j'imagine le travail qu'il y a derrière, qui doit être énorme, ça doit prendre des mois et des mois, si ce n'est des années. Mais c'est vraiment très impressionnant. Quoi. Et en bonus, il y a un court-métrage qui s'appelle La Main, qui est pour moi un court-métrage très politique.
Qui a été interdit d'ailleurs, c'est superbe qu'on puisse le voir, puisque c'est effectivement, je vais te laisser raconter, mais c'est un film qui a été interdit pendant des dizaines d'années. Toutes les copies avaient été prises par le pouvoir en place, par les communistes, quoi, qui voulaient vraiment pas que ce film soit vu, quoi.
Oui, c'est l'histoire d'un petit bonhomme qui vit dans sa chambre et qui est potier. Et il a sa petite plante qu'il arrose tous les jours. Et on frappe à sa porte. Et on voit qu'il n'a pas trop envie d'aller répondre. En fait, à sa porte, puis finalement après à sa fenêtre, vu qu'il n'a pas envie de répondre à la porte. Et en fait, c'est une main qui pénètre chez lui et qui veut l'obliger...
Une main humaine.
Une main humaine, voilà, ouais, une main...
Au milieu des personnages ouais. en poupée, c'est une main humaine.
C'est une main humaine, donc c'est une main dans un gant blanc, et qui veut l'obliger à façonner une main humaine avec un doigt levé, comme ça. Et donc, on imagine bien que c'est une parabole sur la censure, sur le fait de contrôler la création artistique, etc. Ah, c'est un court-métrage qui est aussi, encore une fois, très impressionnant, non seulement par sa technique, mais aussi par son fond. Parce qu'à l'époque, oui, je pense que ça devait être très, très fort.
C'est un film qui, dès sa sortie, a été... repéré dans le monde entier. Trinca est connu par tous les spécialistes de l'animation comme étant un véritable génie et vraiment quelqu'un qui a révolutionné le cinéma d'animation. Et ce film La Main, dès qu'il est diffusé en festival, il obtient le prix spécial du jury au festival d'Annecy. Le premier prix dans la catégorie animation au festival de Bergame, c'est tout de suite un film qui marque. C'est un film qui marque le public des festivals. Ce que veut dire, en fait, ce dont parle Trinca, ce qu'il veut dénoncer à l'époque, il veut dénoncer le pouvoir communiste en place qui essaye de contrôler le talent des artistes et puis surtout qui récupère leur travail pour s'en glorifier. Voilà. Et à travers la métaphore de ce petit céramiste-là qui effectivement refuse de faire les sculptures qu'on lui ordonne de faire. Et ben, il faut croire que, un film d'animation peut. Un simple film d'animation comme ça peut déclencher l'ire du pouvoir, la colère, puisqu'effectivement. On a longtemps cru que ce film, qui a été longtemps interdit en Tchécoslovaquie, avait disparu puisque les copies ont été confisquées pendant plus de 20 ans par le pouvoir tchécoslovaque. Alors évidemment, on parle de Tchécoslovaquie, nous on est des vieux avec Thomas, aujourd'hui c'est la République tchèque et la Slovaquie, mais à l'époque c'était un seul et même satellite de l'URSS. Voilà. Et on peut dire que La Main, ce qu'on a vu juste avant, hein, comme l'année tchèque, est un chef-d'œuvre, hein. c'est extraordinaire, et il faut absolument avoir vu ce film si on aime l'animation.
Oui, c'est un chef-d'œuvre, c'est aussi un... Pour un film d'animation, encore une fois, est-ce qu'il s'adresse aux enfants, ce court-métrage ?
Bah, moi, je pense qu'il s'adresse à tous. C'est la force du cinéma de Trinca, parce qu'il est à la fois visible par les enfants et puis il y a un autre niveau de lecture pour les adultes. Quoi.
Et moi, je pense que quand même pour les enfants, c'est vachement virulent. Quoi. Le film, il est vachement violent, je trouve, pour un court-métrage d'animation pour des enfants. Parce que Trinca, il va jusqu'au bout de son propos. Quoi. Il est jamais complaisant. Moi, j'étais très surpris de découvrir ça.
Et d'ailleurs, hein, je voudrais souligner aussi qu'il y a un très bon livret rédigé par Pascal Vimenet. Et Pascal Vimenet, c'est pas n'importe qui, hein, c'est un chercheur, hein, qui est vraiment spécialisé dans l'animation. Il est enseignant d'esthétique. Il avait créé une revue spécialisée qui a marqué, hein, l'histoire des fans d'animation, qui s'appelle Animatographe. Enfin, il a fait plein de choses dans sa vie. Il a signé plein d'ouvrages. Il a fait en sorte un très bon bouquin sur Jean-François Laguioni, qui était déjà venu dans cette émission, qu'on aime beaucoup aussi, hein, avec Thomas. Et enfin, on vous conseille, hein, une fois de plus, cette année tchèque, donc, qui est sortie chez Artus Film et qui est vraiment une superbe édition pour deux films, du coup, non moins superbes.
machine.
Vous écoutez Culture Prohibée. On va rester dans les classiques, mais on va complètement changer de genre. Et on va parler d'un film qui est considéré à juste titre comme un classique, hein, le Sang du Vampire, un film de 1958, un film d'Henri Cass, produit par les fameux Robert S. Baker et Monty Berman, hein, qui ont réalisé aussi des films comme Jack l'Éventreur, The Hellfire Club, qui ont également produit, hein, des films incroyables comme L'Impasse aux violences de John Gilling. Voilà, film très très marquant, film qui ont fait les heures de gloire du cinéma de quartier de Jean-Pierre Dionnet. Hein, voilà, on voyait ça tous les mercredis matin. Nous, hein, merci Jean-Pierre pour la cinéphilie que tu nous as inculqué. Et film qui se passe en 1874 en Transylvanie et qui raconte l'histoire d'un certain Callistratus, un scientifique un peu étrange qui se livre à des expériences et qui essaye de ressusciter un homme sauvagement tué qui a été accusé de vampirisme. Et il essaye une transplantation du cœur. Bon, ça se passe pas très bien. Et quelques années plus tard, on retrouve ce docteur Callistratus qui dirige une sorte d'asile un peu étrange, une sorte de temple SM comme ça, avec des cerbères, avec des gardes voilà, étranges, dans lesquels on a l'impression qu'on pratique des tortures. Mais on va vite découvrir que ce Callistratus est adepte des transfusions sanguines, mais que pour lui, c'est une question de vie ou de mort, n'est-ce pas, mon cher Damien ?
Parler de vampires et des questions de vie ou de mort, c'est un peu le cas. Alors, c'est un peu particulier pour le Sang du Vampire, parce que en soi, on ne parle pas exactement de vampire, mais il y a l'idée qu'on a quand même besoin du sang pour atteindre une certaine immortalité. Donc, tu as évoqué le docteur Callistratus, qui est le centre de l'histoire, donc où tout va se goupiller, mais le héros, c'est le médecin John Pierre, qui est condamné à mort pour avoir tué un de ses patients. Et l'histoire débute en Transylvanie, mais ne s'y passe pas. Elle est juste à côté, en Croatie, je crois. Et ça peut sembler un détail, mais avoir un médecin qui s'appelle John Pierre dans un pays, enfin en Croatie, ça fait pas super nom de Croate. Du coup, il est transféré pour à travers les manigances du docteur Callistratus dans l'asile qu'il dirige. Et il a besoin de son aide pour faire des expériences et finalement mettre au point une solution liée au sang qu'il essaye de faire. On sent la réécriture de Dracula fusionnée avec des camps d'expérimentation qui est assez particulier. Notamment, l'effet de Dracula, on l'a justement avec le côté maître du château qui reçoit justement John Pierre, qui est censé être croate, mais qui a un nom assez anglo-saxon. On retrouve aussi cet effet Dracula avec finalement Callistratus qui va avoir des vues sur la copine de John Pierre et tout, et en fait c'est assez intéressant tous ces petits côtés, tous ces renvois qu'on trouve. C'est intéressant parce que je trouve que le film commence avec des notes de comédie, notamment dans la prison où John Pierre n'arrête pas d'être suivi par les autres délinquants qui sont présents, et assez vite il perd ce côté-là. Et j'ai oublié le nom du serviteur qui suit Callistratus. Du coup, je vais le baptiser Igor, comme souvent le nom des serviteurs de savants fous, qui a un maquillage qui est assez visible, qu'on remarque très très vite, mais qui est pardonnable et qui, à la suite du film, coule assez simplement dedans.
Oui, tu parles de ce bossu presque borgne là qui tombe amoureux. Alors, c'est pas n'importe qui, il tombe amoureux en fait. C'est un très beau personnage d'ailleurs, un classique hein, du fantastique. Il tombe amoureux de la copine du docteur, mais la copine du docteur en fait, elle se fait embaucher par Callistratus. C'est pas n'importe qui, c'est une actrice mythique hein, pour les fans de fantastique. C'est Barbara Shelley, très grande actrice britannique hein, et, dans tous les sens du terme, par le talent, par la taille aussi. Elle mesurait plus d'1m70. Si vous regardez bien, c'était assez rare à l'époque et si vous regardez bien le film, par moments, on voit bien qu'elle est aussi grande que les gars, voire qu'elle limite les dépasse en taille, en fait, ce qui est assez rigolo. Oui, c'est un film. Tu as fait référence à Dracula. C'est un film qui est quand même écrit par Jimmy Sangster. Jimmy Sangster, c'est un scénariste mythique de la Hammer Film. C'est un film qui sort en même temps que Le Cauchemar de Dracula de Terence Fisher, le chef-d'œuvre de Fisher. Enfin, l'un des chefs-d'œuvre de Fisher, ce Fisher immense cinéaste. Et c'est pas innocent, enfin, c'est une sorte de vrai faux film de vampire, tu l'as dit aussi, on verra pas de vampire avec des canines acérées. Par contre, on voit un personnage qui a pratiqué des expériences et qui a besoin du coup de se nourrir de sang pour pouvoir survivre, en tout cas qui essaye de trouver une solution, sinon il a peur de mourir, cet horrible docteur Callistratus. Mais c'est plus de choses que ça encore ce film, Thomas, n'est-ce pas? C'est un film vraiment assez passionnant.
C'est un peu un film qui mixe un peu les deux grands mythes du fantastique et britannique, que sont Dracula et puis Frankenstein. On peut aussi voir quelque chose de Frankenstein. Hein. Et c'est aussi un film que j'ai redécouvert, hein, parce que j'avais, comme beaucoup, j'avais l'ancienne copie DVD Artus. Et puis là, le redécouvrir sur Blu-ray dans une copie remasterisée, dans son version intégrale apparemment, parce qu'il paraît qu'elle était coupée, l'autre, je n'ai pas bien vu la différence personnellement, mais bon, ça a été une redécouverte, parce que c'est vrai que le film est esthétiquement très beau. Hein, et c'est un film gothique, hein, avec le château, ses grands lustres, etc. Et il joue beaucoup sur par rapport au décor, les voûtes, etc. Je trouve que c'est effectivement, c'est un grand film gothique qui est, par rapport, je trouve qu'il est plus moderne que les films de la Hammer. Pas forcément au niveau de sa mise en scène, mais par rapport à ce qu'il raconte sur la médecine. Tu dis que John Pierre est condamné à mort parce qu'il a tué son patient, mais il l'a pas fait exprès de tuer son patient. Parce que lui, il a une technique de guérison qui est révolutionnaire, mais qu'il n'arrive pas à mettre au point. Donc son patient est mort par inadvertance. Il est pas malin non plus, le patient, hein, mais bon, il aide pas non plus son médecin. Hein. Mais donc voilà, le film propose aussi, notamment sur la transfusion sanguine, etc. C'est quand même quelque chose d'assez novateur par rapport aux autres films de la Hammer.
Après, le film aussi un discours, faut pas exagérer, mais un petit discours politique, puisque ce Callistratus, c'est quand même quelqu'un. On sait très bien qu'il n'est pas clair, mais les autorités lui confient quand même cet asile, tout en sachant que il se livre à des expériences. Voilà, on voit une société à la manière dont elle traite ses fous, disait Bourdieu. On voit le degré de civilisation d'une société à la manière dont elle traite ses fous. Là, on voit bien qu'on n'est pas dans une société. Il y a peut-être un vernis de civilisation, mais derrière, on voit bien que c'est pas très clair que ça. Et celui que tu appelais Igor, ce bossu hideux, là, en fin de compte, c'est peut-être lui l'un des plus personnages les plus humains de ce film. Et alors tu disais, Thomas, ouais, effectivement, c'est un film qui a une esthétique particulière, puisque c'est un film qui est tourné en Eastman Color, qui a été lancé par Kodak dans les années 50 pour concurrencer un peu le Technicolor, voilà, et qui est basé sur trois couleurs, le rouge, le bleu, le vert. Et c'est vrai que ce sont les trois couleurs dominantes du film. Moi, après, ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est que c'est tout l'aspect un peu en fer de Dante, quoi. Voilà, tout les cerbères qui gardent, les chiens qui gardent. D'ailleurs, il y a un certain personnage qui va en faire les frais, hein, des cerbères. Les gardes des enfers qui sont là, des gardiens quand même très sadiques. Hein. Ils sont sadiques. Et c'est un film qui, lors de certains supplices, s'avère, certains supplices infligés à des personnages et à des personnages féminins, hein, s'avère pour l'époque particulièrement tendancieux, en fait, et ça lui vaudra d'ailleurs les foudres de la censure, quoi, quand même, hein, c'est plus ça, à mon avis, qu'a gêné la censure à l'époque. Il y a la musique de Stanley Black aussi, qui est très bien, je trouve, qui est, c'est à l'époque, il y avait beaucoup de musiques qui étaient des musiques plutôt d'accompagnement. Là, on a quelque chose de plus intéressant, je trouve. Et puis, Thomas, tu l'as souligné, il y a la modernité. Bon, c'est pas innocent. Il y a Jimmy Sangster derrière. Jimmy Sangster, c'est quand même un scénariste très, 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 très moderne, très, voilà, qui a toujours essayé de révolutionner son interprétation de Frankenstein, les horreurs de Frankenstein, le film qu'il a réalisé, est peut-être assez bancal en termes de mise en scène, mais est très intéressante dans ce qu'elle propose. En fin de compte, c'est elle, c'est grâce à elle que John Pierre, quand même, mais belle contraction, hein, il fallait vendre le film et aux Français et aux Anglais, donc il va s'appeler John Pierre, il va pas s'appeler Jean-Pierre ou Jean-Peter, il va s'appeler John Pierre. Voilà, donc peut-être qu'aujourd'hui il s'appellerait Jean-Kévin, je ne sais pas, mais voilà. Donc, mais quoi qu'il en soit, ça donne un film, moi je trouve, assez hybride, assez étonnant. Et effectivement, je suis comme toi, Thomas, je l'ai redécouvert. C'est la troisième fois que je vois ce film. Et à chaque fois, je prends beaucoup de plaisir à regarder ce film. Et puis il y a Daniel Wolfit, je crois, il s'appelle l'acteur qui fait le Callistratus, qui en fait bien des tonnes et qui est assez sympa, qui est un peu dans la... Dans l'optique de ces acteurs là d'époque, quand ils faisaient les méchants, quand on faisait un peu Kingston et tout, je trouve ça assez sympathique, en fait.
Écoutez Culture Prohibée, spéciale sortie DVD et Blu-ray. On va aller directement en 1995, selon les dédingues, on est comme ça, voilà. Et on va se diriger vers un cinéaste qui, à l'époque, est un cinéaste qui enchaîne les films extraordinaires. Il vient de faire King of New York, il a fait un remake d'Invasion of the Body Snatchers, ce qui est vachement bien. Dans la décennie précédente, il a fait entre autres L'Ange de la Vengeance, donc King of New York, je ne sais pas si je l'ai dit, Bad Lieutenant, Nos Funérailles, Bad Lieutenant, quel film aussi, voilà. Enfin, il est, dans sa grande époque, il est aussi tout le temps totalement défoncé, c'est important, je pense, de le souligner, parce que c'est quelque chose qui transparaît dans le film, voilà. Et il décide, ce cinéaste, qui s'appelle donc Abel Ferrara, vous l'avez deviné, hein, cinéaste qui sent le stupre quand même à l'époque, hein, voilà. Qui est du domaine de l'ingérable, hein, quand on l'invite sur des plateaux télé. Il y a plein d'anecdotes qui courent où il s'enfuyait des plateaux télé, machin, il était impossible à interviewer. D'ailleurs, petite anecdote, nous, la fois où on avait rencontré Abel Ferrara avec Léo Magnin, hein, qui s'occupe de la technique de cette émission, tout le monde était sidéré et tout le monde était un peu autour d'Abel Ferrara, puisqu'on était dans un festival de cinéma, tous autour de lui, il buvait de l'eau, ce qui avait beaucoup étonné les gens. Et il était très sobre, mais c'est le Ferrara dernière période. Malheureusement, j'ai envie de dire, depuis qu'il boit de l'eau, et qu'il est, son cinéma est moins intéressant. C'est un peu décevant, mais c'est comme ça. Et là, The Addiction, on est en 95. Et c'est l'histoire d'une étudiante en philosophie qui est interprétée par Lily Taylor. Hein. D'ailleurs, c'est Lily Taylor quand Ferrara la voit, il pense que c'est la plus grande actrice de son époque et qu'elle va illuminer le cinéma américain les prochaines années. Bon, ce qui n'est pas faux, elle va faire quand même une grande carrière, surtout dans le cinéma indé, où elle va avoir vraiment, elle va beaucoup compter. Et il décide d'embaucher Lily Taylor et de lui faire jouer cette étudiante en philo, qui d'ailleurs est étudiante aussi avec Eddie Falco qu'on connaît. L'un des personnages du film, la ville est un des personnages du film. Hein. Voilà, la ville de Ferrara, d'ailleurs qu'il l'adore. Et un jour, elle croise Annabella Sciorra, c'est pareil, super actrice, on ne voit plus beaucoup aujourd'hui, mais qui la mord dans le cou, voilà, qui lui demande si elle accepte d'être mordue, enfin, qui lui fait peur, elle la mord, et elle dit qu'elle va, elle lui prédit qu'elle va vivre un enfer. Et effectivement, cette Lily Taylor va complètement changer, voilà, et elle va développer un appétit pour le sang humain, voilà, et une certaine addiction, d'où le titre The Addiction, voilà, The Addiction, donc qui est le film qui nous occupe et qui vient donc de sortir en Blu-ray chez Carlotta. Le Blu-ray quand même qui s'y est magnifiquement à ce film, qui esthétiquement est superbe. Et je pense là à la photographie de Ken Kelch, qui est magnifique, hein, tout en contraste. On est presque dans l'expressionnisme. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant de voir un film tellement dans son époque, dans les années 90, et en même temps avec une esthétique de film qui renvoie, on a beaucoup parlé de Murnau, mais qui renvoie en fait à tout un pan de l'expressionnisme, voilà. Alors forcément on parle de Murnau parce que c'est difficile de ne pas faire le rapprochement avec le Nosferatu de Murnau. Voilà. Mais bon, film un peu particulier. Je crois que, Damien, pour toi, ça a été une redécouverte, en fait, ce film.
Tu l'as répété, c'est un film bizarre. Donc, je l'ai découvert une première fois et je ne suis pas du tout rentré dedans. J'ai clairement trouvé nul. Et en fait, pour l'émission, j'ai décidé de me le refaire. Et faut comprendre que je me suis fait les deux visionnages dans un espace assez court et que j'avais pas vraiment envie de me le refaire, mais je me suis quand même appliqué. Et du coup, je me suis retrouvé face à mes propres contradictions, qui étaient que la deuxième fois, j'ai bien aimé ce film. Alors, c'est intéressant parce que c'est un film de vampire, même s'il ne le prononce pas. Et j'arrive pas à savoir en soi s'il est pompeux ou réfléchi, parce que c'est un film très philosophique, voire trop chargé. Tu l'as dit à demi-mot, mais il est en noir et blanc. Et je sais pas si finalement l'absence de couleur renforce un peu un certain nihilisme présent dans l'œuvre. Il y a un rapport au sang aussi qui est intéressant, vu qu'on est dans les années 90, parce qu'il y a aussi une idée de maladie autour, avec justement cette addiction qui naît, et ce rapport finalement justement à la maladie, au sexe et à la drogue. D'ailleurs, il y a des images de seringues qui sont assez dures à regarder, à visionner et tout. Il est assez drôle de voir les liens qu'il fait dans la thématique même de son film, c'est-à-dire que ça s'ouvre sur le massacre du Vietnam, et plus tard on reviendra sur l'extermination des Juifs par les nazis. Et en fait, il fait un lien assez particulier, parce que du coup, ça fait un peu du Vietnam une sorte de génocide fait par les Américains, un lien assez particulier. Et c'est drôle parce que le combo vampire nazi, et en plus ça se passe à New York, ça me rappelle une œuvre de Guillermo del Toro qui est The Strain, qui est en fait un roman de vampire qui repose un peu sur la dualité entre la science et le fantastique, mais qui justement prend l'action à New York et qui utilise justement ce combo génocide et vampire et nazi. Pour revenir au film, il y a tout un questionnement sur le consentement, la culpabilité et la justice. Tu l'as dit, en fait, quand généralement ils vont mordre quelqu'un, ils leur hurlent « dites-moi de partir, dites-moi de partir ». Et en fait, au départ, les personnes ne répondent pas. Et justement, il y a un des personnages qui va lui dire de partir, mais elle va quand même le faire. En fait, elle impose sa force, sa surpuissance et justifie son geste à ses yeux par le fait que les autres ne lui aient pas justement dit de partir. Sauf que quand la situation se présente où on lui demande de partir, elle persiste. Au final, ce n'est pas une question de consentement. Quand on demande à l'autre, c'est juste pour, au final, justifier son propre geste. Et je me demande si au final, bon, peut-être que je creuse un peu trop, mais si justement il ne fait pas un lien avec avec justement ce génocide, cette quête de sang, et finalement le fait d'imposer sa force aux autres et de justifier ça en disant bah, je l'ai fait, ils ne m'ont pas repoussé, donc j'ai forcément raison, alors que finalement c'est la force qui fait qu'en soi on ne peut pas forcément repousser. C'est un film qui parle de, bah, comme j'ai dit avant, de la force qu'un pays d'une certaine façon peut exercer sur un autre. Parce que, en fait, le truc qui est particulier, c'est qu'il fait beaucoup de retours justement sur le Vietnam, sur le génocide des Juifs, parce qu'il y a une exposition. Et en fait, après le massacre du Vietnam, on parle directement de l'exposition. Il y a un premier retour à l'exposition. À la fin, on a encore un retour à cette exposition. Et durant tout le film, il y a des bouts assez particuliers. Je sais pas. Il fait des liaisons assez particulières. Au départ, je me disais que ça n'avait aucun sens, et en le revoyant, tout s'enclenche assez bien. Mais je vais finir sur un truc qui n'est pas finalement ce que dit le film, mais sur la performance même de l'actrice, qui, elle ne m'a pas vraiment convaincu durant tout le film, mais à la fin, un peu à la toute fin, elle a une scène de colère où, je ne sais pas pourquoi, en un instant, pour moi, elle transcende tout le film.
Après, sur ce que tu dis... moi, ça me gêne toujours au cinéma, les images du génocide, des images réelles de mort. Moi, je sais que c'est ce qui m'avait rebuté dans le film à sa première vision. C'est quelque chose que je n'aime pas. Je regarde pas du cinéma pour voir ces images-là. Voilà, je le dis. Hein, voilà. Alors, évidemment, quand je regarde Alain René ou des choses comme ça, bon, bah, évidemment, là, c'est pas pareil. C'est le sujet principal. On n'est pas voilà. Mais sinon, j'ai beaucoup de mal à voir ça intégré dans une fiction. Et en fin de compte, là, parce que le film, je l'ai revu Moi, c'est un film que j'avais pas du tout aimé lors de sa sortie, je le dis. Et je l'ai revu. Moi, en 95, je l'avais pas aimé, ce film. Et j'adorais Ferrara à l'époque. Voilà, j'adorais Ferrara. Je m'enquillais tous les Ferrara. Ils sortaient au cinéma, donc vous pouvez les voir au cinéma. Voilà. Et quand j'ai vu ce film-là, je suis resté un peu, comment dire, voilà, très, très mitigé. Enfin, plus que mitigé, j'ai pas aimé. Voilà, je n'avais pas aimé du tout. Et en fin de compte, là, à la revoyure, moi, j'ai l'impression aussi que l'un des messages du film, un film qu'on rapproche, on veut toujours rapprocher ce film d'autres travaux de Ferrara, mais on prend toujours ces travaux qu'il venait de faire juste avant. Moi, je trouve que c'est un film beaucoup plus proche, par exemple, de Driller Killer. De Driller Killer avec errance new-yorkaise, hein, parce qu'il y a les questions d'errance là, hein, quand même, hein, et avec ce tueur qui fout des coups de perceuse dans la tête des gens au hasard, voilà, comme ça, qui tue des gens en leur foutant des coups de perceuse et tout. C'est un drôle de film, Driller Killer, c'est un film bancal, mal foutu, c'est un film punk. On retrouve ça là, je trouve, dans ce film-là, et moi je pense qu'il questionne la pulsion en fait. Il questionne la pulsion. C'est quelque chose qui revient souvent, la pulsion, chez lui. Hein. Le personnage... alors pourquoi, à un moment, on décide d'aller vers la drogue? Pourquoi on décide d'aller... Celui, il est complètement accro à l'époque. Hein. Et cette pulsion, en fait, elle va au-delà de tout, quoi. Et elle abat les discours philosophiques. En fait, il se moque un peu. Le côté pompeux, d'ailleurs, le personnage de Christopher Walken, il le tourne en ridicule, hein, qui est là, qui philosophe et tout. Et je pense, moi, qu'il se moque de l'aspect discursif. Enfin, en fait, ça le fait marrer de voir tous ces gens qui essayent d'intellectualiser des choses et tout. Et lui, ce qu'il dit, c'est la Shoah, le Vietnam, que dans l'effet de groupe, l'être humain est capable de faire les pires atrocités. Voilà. Et d'ailleurs, le final renvoie à ça. C'est-à-dire que le final est une orgie vampirique qui est un massacre, un pur massacre, qui en fait n'a ni queue ni tête, hein, parce que en fait, de vampires, ils ne le sont pas, hein, ces gens-là. Hein, ils sont juste complètement tarés. Enfin, on peut supposer qu'ils ne le sont pas, quoi. Voilà. Et qu'ils sont juste complètement. Au lieu d'être accro à la métaupe, ils ne se maîtrisent plus, là. Et c'est l'orgie totale, quoi. C'est assez délirant. Enfin, c'est peut-être comme ça que je le vois. Je ne sais pas si j'ai fait un film pour se faire plaisir, pour se défouler, quoi.
Moi, je l'ai découvert justement à l'occasion de cette émission. Je n'avais jamais vu. J'avais toujours entendu dire du mal. Bon, je ne trouve pas ça si mauvais que ce que l'on veut bien m'en dire. Effectivement, je trouve que le film, esthétiquement, il est superbe. Hein. La photographie, elle est très belle, les cadres ils sont beaux, mais par contre je suis peut-être passé à côté. Je vous écoute depuis tout à l'heure, je me dis putain, j'ai rien compris. Enfin, moi j'avais compris que c'était un film sur l'expérience de la souffrance. L'expérience de la souffrance pour se sentir en vie, quoi. J'avais compris ça. J'ai pas saisi, à mon avis, quand je dis que je suis passé un petit peu à côté, en vous écoutant aussi, mais aussi je pense que j'ai pas saisi tous les discours philosophiques. Hein, moi, Nietzsche, j'arrive pas, hein, par exemple. mais je voyais surtout ça comme une expérience de la souffrance pour se sentir en vie, sur le mal aussi, sur le mal qui est en chacun de nous et de ce que l'humain est capable de faire. Bon, je trouve le film assez inégal. Moi, je trouve que l'actrice, elle est très inégale. Il y a des moments où je la vois jouer. Et j'arrive pas du tout à être en empathie avec elle, quoi. Et c'est ce qui me rebute un peu. Et tandis que le massacre final, je trouve vraiment ridicule, en fait. J'adhère pas du tout, quoi. Et à un moment, je décroche un peu du film, en fait.
Il y a aussi un truc qui me revient en mémoire, mais vous allez m'aider à le confirmer, c'est que à chaque fois qu'il meurt, en soi, il ne tue jamais, il transforme juste l'autre personne, ce qui fait que on parle de massacre final depuis tout à l'heure, mais est-ce qu'ils sont vraiment morts finalement? Parce que finalement, tu parles, en fait, quand on prend chaque point de vue, avec le mien, ça rejoint un peu l'idée de cet impérialisme qui conduit au génocide et tout, c'est un peu ce qu'on retrouve avec ce que disait Jérôme. Et avec ce que tu dis, Thomas, finalement, on tombe sur l'idée que la souffrance est au final faite que, d'une certaine façon, pour être partagée et donnée au plus grand nombre.
Cette idée de la souffrance, c'est une idée très, très, très chrétienne, hein, très christique, hein, la renaissance par la souffrance, etc. D'ailleurs, la fin est très ambiguë là-dessus. Elle va à l'hôpital, on a l'impression qu'elle veut se suicider, puis après, je crois qu'elle voit son nom sur une tombe, c'est ça, hein. Donc, est-ce qu'elle renaît en tant que... Elle est trouvée qui elle est, en fait. Elle renaît ainsi comme ça, donc c'est une métaphore, c'est une parabole, cette tombe avec son nom dessus. Donc finalement, elle s'est trouvée quelque part par cette idée de souffrance. Il y a quelque chose de très christique là-dedans. Et Ferrara, il est catholique.
Mais Thomas, moi, je pense que ta vision du film est juste. Hein. Effectivement, c'est le film d'un catholique, ça c'est sûr et certain. Après, je pense aussi qu'on se perd en conjecture sur ce film, parce qu'on veut savoir où Nicolas Saint John et Ferrara veulent nous emmener, quoi. C'est-à-dire que par moment, avec ce film, moi, je l'avoue sincèrement, autant je vois bien où il veut m'emmener sur la quasi-totalité de ses films, autant sur celui-là, par moment, on est un peu perdu, quoi. C'est vrai que la... Mais tout ce que tu décris avec cette résurrection finale, voilà, puisque c'est ça, c'est la nouvelle Ève, hein, quelque part, cette jeune femme, est aussi très juste. Hein, c'est bien dans le film. Donc je te rassure, Thomas, tu as bien compris le film.
Oui, cette résurrection finale aussi, quelque part, il y a ce complexe de classe, en fait, voilà. Elle veut avoir une place dans sa société, avoir une bonne place dans sa société. Et donc ce massacre final à la fin aussi, c'est quelque part, c'est une expression d'un rejet, d'un complexe, d'une classe qu'on n'arrive pas à atteindre aussi quelque part. Enfin, moi, je vois ça comme ça.
Moi, je vois aussi un massacre des élites. C'est-à-dire tous ces gens, voilà, on se moque. Ferrara se moque d'eux, en fait, quoi. Voilà. C'est ça, quoi. C'est l'aspect pas très sérieux du film. Effectivement, il y a un côté pas très sérieux dans ce film. C'est un film un peu facétieux. Mais son esthétique noire, l'interprétation très premier degré, comme ça, surtout de l'actrice principale, donne vraiment l'impression d'avoir un truc dramatique. Sauf qu'en fait, je pense que c'est... Au fond, c'est pas si sérieux que ça. Mais c'est un film assez détonnant, quand même, dans la carrière de Ferrara. Il est un peu à part, quand même, du reste de sa filmo, je trouve.
Ben, moi, au final, ce que j'en conclus, c'est qu'on est un peu tous sur la même longueur d'onde, qui est on n'est pas sûr d'avoir bien compris le film, on a tous compris un truc différent, on n'est même pas sûr que c'était ça qu'on devait comprendre. I can feel the heat from your body. You won't let me sleep at night. I hear your whispers through my screams. You're the devil in my dreams. You're my addiction. I can't face the new day, baby, until I receive your kiss. Satellite becomes my enemy. Don't want my friends to see me like this.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite, graphite.net. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demey, dit La Bête Noire de Compiègne. Thomas Roland dit le loup-garou Picard, and the last but not the least. Je veux bien sûr parler de Léomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine.